السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères et sœurs, toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous réunit en ce deuxième dimanche du mois de Ramadan 2023 pour aborder le sujet que Qari Ridwan a introduit, a expliqué et que notre cher Hafidh a lu. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de l'amour que notre prophète alayhi salat wa salam avait pour sa famille, pour sa femme Khadija radiallahu anha et ensuite Aisha radiallahu anha, ses filles, ses proches de façon générale. En plein Ramadan, on aurait pu s'attendre à une autre thématique. Donc, on disait qu'en plein mois de Ramadan, on aurait pu s'attendre à une autre thématique. Les efforts de notre prophète, alayhi salatu wassalam, durant le mois béni, sa générosité, ou alors comment est-ce qu'il faisait des efforts durant la dernière décade, des sujets magnifiques qui ont tous leur place en cette période. Mais mes chers frères et sœurs, ce sujet, l'amour du prophète alayhi salat wa salam pour sa famille, est tout aussi important car il parle de personnes prioritaires. Les parents, l'épouse, et pour la femme donc son époux, et les enfants. Mes chers frères et sœurs, de le Coran, Allah Azza wa Jal nous demande en priorité de nous préoccuper de notre famille proche. L'objectif, c'est de les garder sur le droit chemin et de les éviter la perdition. On connaît le verset « Abdullah ibn al-Shaytan al-Rajim »« Ya yuhalladina aman waqu anfusakum wa ahlikum nara » »« Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu. » Ça implique, le mot fascine explique, ça implique le fait de leur enseigner le bien. On parle de qui là? De sa femme, de ses enfants, de ses proches. Leur enseigner le bien, de les mettre en garde contre toute chose mauvaise. Mais vous savez, mes chers frères et sœurs, cela n'est possible qu'à partir du moment où on véhicule ce message avec douceur, avec amour et bienveillance. Telle était l'habitude de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Lorsqu'on analyse la citation très célèbre de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, concernant l'éducation des enfants, vous connaissez peut-être cette citation. Ali radiallahu anhu identifie trois étapes de l'éducation des enfants. De 0 à 7 ans, Ali ibn Talib dit qu'il faut leur donner de l'amour, et exclusivement de l'amour. Jusqu'à 7 ans, on ne réprimande pas l'enfant, on essaie d'être le plus proche et lui donner le maximum d'affection. De 7 ans à 14 ans, c'est-à-dire jusqu'à la préadolescence, c'est là qu'on lui inculque les valeurs, c'est là qu'on lui donne les bons conseils, on le montre le bien et on le met en garde également contre le mal. Et Allah seul sait combien de mal gravite aujourd'hui autour de nos enfants. Et ça commence très tôt avec les réseaux sociaux, avec Snapchat, Instagram, des choses que nous-mêmes nous ne maîtrisons pas forcément, pas 100% en tout cas. Mais voilà, nous devons avoir ce discours, le discours doit être présent. Mais c'est à partir de l'âge de 7 ans jusqu'à 14 ans que nous devons inculquer ces valeurs à nos enfants. Et après 14 ans, Ali radiallahu anhu dit que après 14 ans, cet enfant n'est plus un enfant. C'est ton compagnon. Sahibuk, c'est ton ami. Tu t'appuies sur lui, il t'aide dans tout ce que tu as à faire. Parce que les savants disent qu'à 14 ans, l'âge de l'adolescence, l'enfant n'est plus prêt à écouter les consignes. Il n'a plus trop envie de se faire dicter son mode de vie, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. L'adolescence, c'est l'âge rebelle un petit peu, on peut dire. Et justement, les savants, on parle des ulama de tarbiya, ceux qui ont décortiqué les hadiths concernant l'éducation qu'on donne aux enfants, ils disent que si on a suffisamment donné de l'amour aux enfants dans la première étape, jusqu'à l'âge de 7 ans, le cœur de cet enfant est rempli d'amour et il y a un lien de confiance avec son père et sa mère. Ce qui fait que quel que soit le conseil que tu vas lui donner, il va t'écouter. Il n'y aura pas besoin de crier avec lui, de le réprimander, de cacher sa PS5 ou alors de le punir. Non, du moment qu'il y a eu une phase d'amour importante, il y a une relation de confiance. Et la relation de confiance, si elle est là, ça veut dire que l'enfant, il va écouter entièrement les conseils de ses parents. Pourquoi on commence par cette introduction ? Pour qu'on essaie, pour qu'on comprenne que si on veut le bien pour quelqu'un, et bien sûr on veut le bien pour sa femme, ses enfants, ses proches, c'est ce que chaque parent veut. On veut qu'ils réussissent, qu'ils aient, mashallah, tout ce qu'il faut dans la vie, mais la plus grande satisfaction, c'est que nos enfants soient sur le droit chemin. Et la pire des choses, Allah protège, serait qu'un papa ou une maman voit son enfant en train d'aller dans le mauvais chemin, suivre les mauvaises personnes et, Allah musta'an, quitter la masjid progressivement. Ça serait la pire des choses, qu'Allah nous protège. Ce qu'on doit réaliser, c'est que tant qu'on n'a pas de la considération, de l'estime, de l'amour, de la bienveillance pour son prochain, on ne pourra jamais véhiculer le moindre message. C'est pour ça qu'Allah Rabbul Izzah dit au prophète alayhi salatu wassalam, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لِنْتَ. Ça vient de quel mot l'inta? Al-lin. Al-lin, c'est la douceur, la tendresse. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. On parle des sahaba. Le sens du verset, si le prophète alayhi salatu wassalam avait une da'wa, une invitation très ferme, dure, il avait réprimandé, recadré les sahaba, les sahaba ne l'auraient pas écouté. Ça concerne la relation d'un être humain avec les étrangers, d'une certaine façon. Maintenant, la relation avec la famille, les gens qui sont de notre sang, ça, on doit le prendre avec encore plus de précaution. Et ce que nous devons comprendre également, c'est qu'il y a eu peut-être à une certaine époque, je le dis avec beaucoup d'estime et beaucoup de respect pour nos anciens, il y a eu une époque où on avait notre dada, notre nana, les anciens, pour eux, voilà, l'enseignement de la religion, ça se fait à la baguette. Les enfants venaient à la masjid, s'il faut les violenter, les bousculer, les réprimander, et ainsi de suite, les punir. La transmission de la religion se faisait de façon un peu plus complexe. Mais de nos jours, ça ne marche plus, ça. Et cette façon de procéder, à la kulli hal, de toute façon, ne correspond pas à l'enseignement prophétique. Quand le sahaba qui était au service du prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, pendant toutes ces années, s'il m'arrivait d'oublier quelque chose, le prophète alayhi salatu wassalam ne me faisait jamais la remarque. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Ou si j'avais fait quelque chose qui n'était pas adapté, le prophète ne me faisait pas de remarques ou de reproches directs. Il y avait cet amour, cette hikma, cette sagesse, et c'est exactement ce que nous allons essayer de mettre en avant aujourd'hui, inshallah, pour essayer de comprendre que le din, c'est 5 salats. Le din, c'est le saum, le jeûne. Le din, c'est la lecture du Coran, mais le din, c'était également l'amour pour sa femme, ses enfants, pour ses proches. C'était tout ça le comportement de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Donc voilà déjà une première introduction pour comprendre pourquoi ce sujet, pourquoi c'est extrêmement important. C'est important également parce que on constate que de nos jours, il y a une certaine fracture entre les générations. Entre des parents qui sont un peu désespérés, exaspérés, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus la main sur leurs enfants, ils ont du mal à les recadrer, ça ne se passe plus comme ça se passait avant. Et là, on a besoin de voir qu'il faut finalement adopter le modèle prophétique pour qu'il y ait là la baraka et la nusra d'Allah dans notre tarbiyah, dans notre relation avec nous, avec nos enfants. Pour réaliser, deuxième piste, pourquoi est-ce que ce sujet est tellement important, là on va aller un peu plus sur la relation du père avec donc son épouse et ses enfants. Et je vais vous demander de visualiser une histoire. C'est l'histoire d'un homme, on va l'appeler Ismaïl. Je suis désolé s'il y a un Ismaïl dans la salle, j'ai changé 4 fois de nom. Chaque fois je me trompe, je dis non, Ahmad, il y en aura un, et ainsi de suite. Donc voilà, j'aurais pu l'appeler Ibrahim, vous avez pensé que c'est moi. Non, je ne suis pas, je suis quand même assez correct quand même. Donc s'il y a Ismaïl, je vous présente mes excuses tout de suite. Hein, c'est pas une, ça ne vous concerne pas, d'accord? Ismaïl est marié et il a 3 enfants. Il n'habite pas loin de la masjid, il habite juste là. Il a un travail stable, mashallah. C'est un homme discret, il est tranquille, il est assidu à ses 5 salats. Chaque salat, il est là à la masjid, mashallah. Quand il sort du bureau le soir, Ismaïl va directement à la masjid. Après la salat de Maghrib, donc à 18h quand il sort à 18h, il va directement à la masjid. Il fait sa salat de Maghrib et mashallah, après Maghrib, il reste 40 minutes parce qu'il est Hafez Quran et donc il révise son dor. Et quand il a fini ses 40 ou 45 minutes, bien sûr, il ne reste plus beaucoup de temps pour Isha, il rentre direct chez lui, il doit rester 20 ou 30 minutes avant la salat de Isha. Quand il arrive chez lui, ben il mange rapidement. Mais il mange seul. Pourquoi seul? Parce qu'il arrive toujours trop tard à la maison. Sa femme a déjà mangé et les enfants ont déjà mangé. Et lorsque lui passe à table, sa femme est en train d'aider les enfants à faire leurs devoirs, prendre leur bain, les préparatifs pour se coucher. Donc il prend ce repas rapidement et il retourne à la masjid pour la salat de Isha. Après la salat de Isha, il fait ses sunnahs, ses 8 heures. Quand il sort, ben, il retrouve ses amis. Petit cercle d'amis où ils parlent, comme il dit, ils refont le monde. Et ensuite, il rentre chez lui. En général, c'est à peu près 22 heures. Parce que voilà, quoi, il a besoin de décompresser, discuter, rigoler avec ses amis. Je pense qu'il y a beaucoup qui se reconnaissent ça, du coup, dans cette histoire. Il rentre chez lui à 22 heures. Et quand il rentre chez lui à 22 heures, bien sûr, ben, les enfants dorment. Ce qui veut dire que du lundi jusqu'au samedi, il ne voit même pas ses enfants avant de dormir. Il ne voit même pas ses enfants pour le dîner. Parfois, sa femme fait l'effort d'essayer de l'attendre. Hein. Mais elle est fatiguée, miskine. Tout ce qu'elle a à gérer le matin avec les enfants et ainsi de suite. Et puis, elle a remarqué que même quand ben, elle attend son mari, quand il rentre à 22 heures, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va direct chez Beansport. Il va regarder Bundesliga, la Ligue 1 et ensuite, et tout ça. Et en plus, miskine, il supporte le PSG. Donc voilà, il y a des choses qu'il s'attend et qu'il n'aura jamais. Le soir, il se couche, le matin, Fajar, il reste jusqu'à Ishraq, Mashallah, il fait son Ishraq. Et comme il reste jusqu'à Ishraq, il fait son zikar, il révise son Coran et tout, ben c'est sa femme qui va acheter le pain le matin. Miskine, hein, elle travaille. Hein. C'est elle qui donne le goûter aux enfants et c'est elle qui dépose les enfants à l'école. Et lui, il rentre, il prend son petit-déj, il va au bureau et le reste de la journée, vous avez compris comment ça se passe. Certains disent, oui, mais il y a quand même le week-end. Le week-end, il est avec sa famille. Ben non, le week-end, il y a tout un football. Il va jouer au foot avec ses amis. Ou alors, il y a des sorties entre anciens camarades de madrasa. Il y a toujours un madja, comme il dit. Mais le madja, c'est toujours pour lui. Le plaisir, c'est toujours pour lui. Jamais il n'amène sa femme au restaurant. Il n'y a pas de sortie le dimanche en famille. Il n'y a pas de voyage non plus en famille. Ce n'est pas une question de moyens. Il a les moyens. C'est qu'il trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. Lui trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. Parce que lui a trouvé un certain équilibre dans ce petit monde qu'il a créé en parallèle, un monde parallèle totalement à sa famille, aux besoins de sa famille. On a dit combien d'enfants il a? Non, 5, il y avait 3 tout à l'heure. La CAF va crier chez nous, de 3 films passe à 5. Il a combien d'enfants? 3 enfants. Un beau jour, sa femme lui dit, c'est bon, c'est terminé, je m'en vais. Sa femme le quitte, du jour au lendemain. Et elle a eu la garde exclusive de ses 3 enfants. Ismaël est choqué. Il se dit que ben, j'ai jamais trompé ma femme, j'ai jamais fait le zina, j'ai toujours été là, présent, jamais été violent, jamais été virulent, je paye le loyer, je paye les factures. Vous savez, c'était quoi le problème avec Ismaël? C'est qu'il était distant, il était froid, il n'y avait aucune chaleur humaine. Son épouse ne trouvait aucun amour auprès de son mari, les enfants ne trouvaient pas non plus l'amour paternel, l'amour qu'un père est censé apporter à ses enfants. Et qu'on verra cet amour que le prophète alayhi salat wa salam lui donnait à ses filles, radiallahu anhun. Mes chers frères, voilà pourquoi il est une raison de plus pour laquelle il est extrêmement important de parler de l'amour au sein de la famille et de s'identifier au modèle prophétique. Parce qu'on a besoin de trouver le juste milieu. Le juste milieu entre le temps qu'on consacre au dîn, entre le temps qu'on consacre à sa famille et le temps qu'on consacre à soi-même. C'était ça le mode de vie de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Et on va dire deuxième raison pour laquelle, ou alors troisième raison pour laquelle ce sujet est extrêmement important, parler d'amour dans l'islam, c'est que il y a beaucoup de gens dans d'autres religions pour lesquelles nous avons total respect. Quand ils parlent de Isa alayhi salam, ils disent que c'était le prophète de l'amour. Et il y a quelques citations, entre autres, qui ressortent comme, vous connaissez ça, on a entendu, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, qu'est-ce qu'on fait? On tend l'autre joue. Alors, dans tous les livres révélés par Allah Azza wa Jal, il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a du beau dans toutes les religions, d'ailleurs, qui viennent d'Allah. Mais maintenant, la question, c'est que nous, musulmans, qu'est-ce que nous connaissons de l'amour universel de notre prophète alayhi salatu wassalam? Quand on parle de Isa alayhi salam qui réincarnait l'amour, on doit être capable de savoir les traits de cet amour universel qui était présent encore plus chez notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, le problème, c'est que nous manquons beaucoup de connaissances. Et c'est uniquement quand on entend des campagnes de désinformation sur l'islam, des critiques sur le prophète alayhi salat wa salam, c'est là qu'on réagit. Et on réagit de quelle façon? On est blessé, on est vexé, on est frustré. Mais vous savez, mes chers frères, la désinformation, elle a toujours existé. Si on avait un peu plus de temps, mais mon adédouane m'a dit qu'ici c'est 45 minutes. Donc théoriquement, je m'arrête à 14h10. Je voudrais citer l'histoire d'Abu Jahal qui, quand le prophète avait commencé à prêcher l'islam, la désinformation, la campagne de désinformation qu'il a fait à Mecca pour mettre en garde pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les savants, les mouarikhines disent que ça nous prouve que la désinformation, elle a toujours existé. Mais ça n'a jamais porté atteinte à l'islam. Vous savez, qu'est-ce qui porte atteinte à notre religion? C'est notre mauvais comportement. C'est notre méconnaissance de la religion. C'est parfois ce Ismaïl. J'ai oublié de dire qu'Ismaïl a une jolie barbe. Et quand on le voit, ben, c'est le musulman type. Le problème, c'est quand on a quelqu'un qui pense être à fond de la religion, qui a une pratique qui est correcte, mais qui, en marge de cette pratique religieuse, a un comportement déplaisant, tant au niveau de sa famille qu'au niveau de son travail. Ça peut être un chef d'entreprise qui est barbu, qui est assidu à la masjid, ainsi de suite. Mais quand il s'agit de travailler, quand il s'agit d'avoir la relation avec ses employés, c'est quelqu'un qui est. C'est un autre homme. On dit, ah non, là, il a changé de visage complètement. Il passe d'un ange à Pharaon complètement. C'est ça qui porte préjudice à notre dîne. Ce n'est pas la désinformation. Ainsi donc, mes chers frères et sœurs, si on devait juste un léger hors sujet, mais qui parle de l'amour, nous devons connaître des citations similaires. Comme dans d'autres religions, ils connaissent beaucoup de choses concernant l'amour de Isa alayhi salam pour l'humanité. Nous, musulmans, nous ne devons pas uniquement savoir ce que le prophète a donné comme ordre, conseil, consigne, ainsi de suite, sur les ribadas. Ça, c'est le dîn. Mais le dîn, c'est également ce prophète qui, lorsqu'il habite à Mecca, et que la famille d'Abou Lahab met des épines, des branches épineuses devant sa maison, et quand il sort le matin, ça le blesse, ça fait saigner ses pieds moubarak, il ne dit pas un mot, il dit juste « ma hadha al-jiran ». Quel est donc ce lien de voisinage aux familles d'Abou Lahab? C'est le prophète alayhi salat wa salam qui a pris la prêche de Taïf, on connaît l'histoire. Il reçoit la visite de l'ange des montagnes qui propose de détruire ce peuple. Rahmatan lil alamin. Bénédiction pour les deux mondes. Il dit que non, Allah Rabbul Izzah guidera leurs enfants. C'est ce prophète qui est ensorcelé par l'abide et quand on retrouve le sorcier, ainsi de suite, il décide de le pardonner. C'est ce prophète qui, lorsqu'il est empoisonné par une femme à Mecca ou à Madina? À Madina. Et qu'on retrouve cette femme qui avait apporté cette épaule de cabri emprisonné, le prophète, alayhi salat wa salam, pour lui, pour sa personne, il pardonne à cette femme. Et ainsi de suite. Et des exemples, on referait toute la sirat cet après-midi. Il est extrêmement important que nous connaissions ces citations, mais également ces situations de vie où les gens avaient fait du mal au prophète alayhi salat wa salam, l'avaient porté atteinte dans sa personne, on va dire même physiquement, et notre prophète alayhi salat wa salam a réagi de façon aussi noble et encore plus noble que Isa alayhi salam en pardonnant à son peuple. Ça, c'est important. Mes chers frères et sœurs, nous devons connaître la richesse de notre religion. Et là, notre religion, elle est très vaste. C'est pas uniquement, je redis peut-être la même chose, c'est pas uniquement le musalla, la masjid, le Qur'an. C'est les relations avec sa femme, ses enfants, avec ses proches. C'est le croyant dans la société. C'est là-dessus qu'on a besoin de travailler pour donner réellement une belle image de notre dîn. Alors justement, j'ai rien à vous prouver. On va essayer de comprendre de nous-mêmes. Je m'inclus dans le pronom personnel. Que quand je vous dis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr tout le monde répète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Si vous fermez les yeux, je vous dis Muhammad, Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous visualisez un homme d'une beauté extraordinaire, les qualités, les sifat sallallahu alayhi wa sallam, mais vous le voyez où? Dans la masjid, Nabawi, en train d'enseigner aux sahaba le din. Si je vous dis d'ouvrir les yeux et refermer, repenser au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam d'une autre façon, vous allez le voir en train de prêcher à Mecca pendant le hajj, avant le hajj de l'islam, essayer de convaincre les Quraysh de revenir avec le tawhid, et ainsi de suite. Vous allez l'imaginer à Khandaq, en train de renforcer la foi des musulmans pour dire qu'Allah est avec nous, n'ayez aucune crainte, même s'il est coalisé, ils sont là, ils sont contre nous. Vous allez visualiser le prophète alayhi salat wa salam en train de recevoir des tribus de toute la péninsule arabe, à Madina, et leur donner des explications sur l'islam. Vous allez visualiser le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rédige des courriers pour César, pour l'empereur de Perse, ainsi de suite. C'est vraiment l'idée que nous avons de notre prophète alayhi salat wa sallam. Mais notre prophète alayhi salat wa sallam, c'était également un mari exemplaire et un père exceptionnel. C'était un homme qui aimait sa Khadija radiallahu anha à Mecca et qui ensuite aimait Aïcha radiallahu anha à Medina. C'était un homme qui aimait sa fille Fatima, Ruqayya, Ummi Kulthum radiallahu anhunna et Zainab Ajma'in. C'est un homme qui a pleuré lors du décès de son petit-fils. C'est un homme qui était au service de sa famille. Aïcha radiallahu anha disait que le prophète alayhi salat wa salam était présent au service de sa famille, mais lorsqu'il entendait le adhan, il quittait la maison et allait à la masjid. Là déjà, on a quelques éléments de réponse qui confortent un peu l'importance du sujet et qui nous donnent une autre approche de la sirah et une meilleure connaissance de notre prophète alayhi salat wa salam. Et si on avait dit tout ça à Ismaïl, s'il lui avait dit que être musulman, c'est également aimer sa femme, aimer ses enfants, aimer ses parents, peut-être que son mariage aurait tenu. Peut-être qu'il aurait pris une autre direction. Peut-être qu'il n'aurait pas vu l'islam sous le prisme de la spiritualité et uniquement, mais l'islam, c'est avant tout, c'est l'amour pour Allah, mais c'est ensuite l'amour pour les créatures d'Allah, Azza wa Jal. Hada. Alors nous allons nous concentrer dans nos 20 minutes que nous avons, inshallah, sur l'amour que le prophète alayhi salat wa salam avait pour Khadija radiallahu anha en tant qu'épouse. Et si on a le temps un peu, pour Aïcha radiallahu anha, on peut brasser un peu la période madani. Si on a le temps, on parlera un petit peu de l'amour du prophète alayhi salat wa salam pour sa fille Fatima. On sélectionnera Fatima radiallahu anha. Et si on a le temps, pour sa maman qui s'appelait... Je ne vous dis pas, j'arrête. Amina, qu'il a très peu connue, mais pour laquelle il a énormément pleuré. Khadija, radiallahu anha, c'était l'amour de sa vie. Le hadith, le prophète sallam dit, « Inni qad ruziqtu hubbaha. » Allah a mis dans mon cœur l'amour pour Khadija, radiallahu anha. Hein, Ismaïl devait savoir que le prophète alayhi salat wa salam était profondément amoureux et attaché à son épouse Khadija radiallahu anha. Khadija, c'était son soutien, c'était sa moitié, c'était la personne à qui il se confiait. Vous savez qu'avant l'islam, le prophète alayhi salat wa salam était aimé de tout le monde, était aimé par tous les notables de Mecca. Et son surnom c'était Al-Amin. Son surnom c'était Al-Amin, l'homme de confiance, la personne honnête. Mais de toutes ces personnes qui avaient les moyens, qui avaient le pouvoir à Mecca, c'était Khadija radiallahu anha, son épouse, la personne la plus proche de lui et en qui il avait entièrement confiance. Et on va le voir lors de la première révélation. Ce sont des événements de la sirah que tout le monde connaît. Soit on a appris à la madrasa quand on était petit, ou alors on a récemment entendu dans différents programmes, mais c'est du connu. Je ne vous apprends strictement rien de nouveau. Par contre, on essaie de réfléchir sur nos acquis. On a des acquis. On essaie de méditer sur ces acquis et réaliser à quel point c'est une source de richesse et nous devons nous en inspirer. Notre prophète, alayhi salat wa salam, reçoit la visite de l'ange Jibril, alayhi salam, et notre prophète est effrayé. Il retourne en courant à Mecca et il aurait pu aller voir Abu Talib, qui était un homme influent, qui avait le pouvoir sur toute la ville de Mecca et qu'il aimait, c'était son oncle, et qu'il aimait de tout son cœur, qu'il avait élevé depuis qu'il a perdu son père et son grand-père. Non, notre prophète, alayhi salat wa salam, dans cette situation effrayante, va voir directement son épouse Khadija radiallahu anha. Al-Mubarak Fawri, et c'est un livre que je vous conseille qui s'appelle Le Nectar Cacheté. En arabe, Ar-Rahiq al-Makhthoum. Magnifique. Je n'ai pas amené l'édition que j'utilise, mais bon, vous en trouvez dans le commerce. Et il y a une édition qui est sortie qui est vraiment bien, bien illustrée. Mubarak Fawri dit Fadakhala ala zawjatihi Khadija bint Khuwaylid radiallahu anha faqala zammilouni. Il est retourné, il est parti voir son épouse Khadija, effrayé, il tremblait de peur. Il a demandé qu'on le couvre, tellement il était effrayé. Il n'avait jamais eu aussi peur de sa vie. Et Khadija radiallahu anha l'a couvert jusqu'à ce que le prophète alayhi salat wa salam, il soit un peu plus calme et il reprend ses esprits. Et là, il dit à Khadija radiallahu anha, « Laqad khashitu ala nafsi. » J'ai eu tellement peur que je croyais que j'allais mourir. Je croyais que cette chose qui est apparue, parce qu'il ne sait pas encore c'est l'ange Jibril, cette créature, cette apparition, c'était pour me tuer. J'ai eu peur que j'allais mourir à cet instant. Et c'est là qu'on va voir la grande intelligence de Khadija radiallahu anha. On va voir également la grande proximité qu'elle avait avec son mari Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle le connaissait. Elle connaissait son grand cœur, sa bonté, sa générosité. Et Khadija radiallahu anha, elle a l'intelligence de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'Allah va mettre dans son cœur à cet instant. Et c'est qu'elle va dire là, à l'instant T, où le prophète alayhi salatu wa sallam a besoin d'encouragement, ça va être un soutien psychologique parfaitement adapté à cette situation complexe. Elle va dire au prophète alayhi salatu wa sallam, Kalla wallahi ma yukhzik Allahu abada. Jamais de la vie, oh Muhammad, jamais Allah azza wa jal ne t'avilira ou alors ne fera quelque chose de mauvais pour toi. Et là, elle continue, on va dire la citation directement en français. Car, oh Muhammad, tu es uni avec tes proches, tu es quelqu'un qui garde les liens avec la famille, tu soutiens les faibles, tu donnes aux pauvres, tu aides les orphelins. Tu vas toujours au secours des gens qui sont victimes d'injustice. Et si on décortique cette citation, après il y a ce qu'on appelle en arabe le « ilmun nafs ». Ce n'est pas vraiment les psychologues, mais c'est l'approche psychologique, on appelle ça « ilmun nafs tarbawi ». C'est l'approche psychologique extraite des conseils de notre prophète alayhi salatu wassalam. Les savants disent que Khadija radiallahu anha va trouver les mots les plus justes parce qu'elle rappelle à son mari ce qu'on appelle le « husnu dhanni billah ». La pensée, la bonne pensée en Allah Azza wa Jal, que jamais Allah Azza wa Jal ne va déshonorer quelqu'un qui vit avec des principes aussi nobles. Ce que nous retenons, c'est que le but, ce n'est pas de décortiquer ça risque d'être long. Si tu es dans le droit chemin, tu fais tes salats, tu jeûnes, tu lis ton Coran, tout ce qu'on connaît, tu ne fais de tort, de mal à personne. Tu ne dois de l'argent à personne. Tu n'es pas celui qui va s'asseoir dans un coin de la masjid, faire ribat, bohtan, parler sur un tel, critiquer. Voilà, Shay. Tu as le cœur propre et Allah seul le sait. C'est-à-dire que tu sais que tu n'as l'intention de ne faire de mal à personne. Tu avances le droit chemin. Quoi qu'il t'arrive dans la vie, c'est un bien pour toi. C'est une épreuve qui vient d'Allah. Parce que toi, tu n'as rien à te reprocher. Tu es dans le droit chemin. Et donc, c'est ce que Khadija radiallahu anha a mis en avant pour réconforter son mari. C'est-à-dire quand quelqu'un est effrayé, il est difficile de le ramener à la raison. Et le prophète a vécu une situation qui était effrayante. On parle du summum de la peur. Et là, elle va lui rappeler le husnu dhanni billah, comment est-ce qu'Allah agit avec ses créatures. Ensuite, Khadija radiallahu anha, en rappelant au prophète alayhi salat wa salam tout le bien qu'il fait et qu'il a fait durant toute sa vie, elle va lui redonner confiance en lui-même. Vous savez ce que certains parlent de confiance en soi, blablabla, d'accord, qui a été repris par beaucoup de concepts pour différentes raisons. La confiance en soi, c'est ce que Khadija radiallahu anha, d'une certaine façon, va transmettre au prophète alayhi salat wa salam. N'oublie jamais qui tu es. N'oublie jamais le bien que tu fais autour de toi. Tu es quelqu'un qui a un comportement irréprochable. Personne à Makkah n'a quoi que ce soit à te reprocher tellement tu as un comportement qui est noble. Ça, c'était le soutien psychologique immédiat premier de Khadija radhiyallahu anha. Et justement, en commenté, les ulama de Ilmun Nafs Tarabawi disent que, je lis, ce genre de paroles spontanées qui pourtant interviennent dans une situation inhabituelle, une situation effrayante, ne peut venir que d'un amour fusionnel, que deux cœurs qui se connaissent parfaitement et sont en totale confiance. Parce qu'il y a une relation très forte entre Khadija radiallahu anha et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qui fait que sa femme trouve immédiatement les paroles justes pour apaiser le cœur de son mari alayhi salatu wa salam. Ça, c'est le soutien psychologique. Ensuite, l'intelligence de cette femme, la force du caractère, c'est la prise de décision sage et ciblée. Mubarak Fawri dit, ثم أخذته رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل خديجة رضي الله عنها va l'amener voir. On connaît l'histoire de ورقة ابن نوفل qui était un homme de connaissance, qui connaissait les livres révélés. Et on connaît ورقة ابن نوفل va identifier, va dire au prophète sallam que c'est l'ange Jibril qui était venu avec les autres prophètes et que tu as été élu, tu es le prophète d'Allah عز وجل. Les savants disent également que la force de caractère de Khadija radiallahu anha ne pouvait émaner que d'une femme qui était stable et qui avait une vie de couple stable avec, on va dire, une personnalité totalement épanouie. Parce que quand une femme vit, là je pèse mes mots, sous l'autorité d'un mari qui est extrêmement sévère, cette femme va devenir introvertie. Elle va se renfermer sur elle-même. Elle n'osera pas exprimer ses idées parce que son mari est autoritaire, son mari est comme ci, comme ça, il est tellement sévère, il lève la voix, et ainsi de suite. Elle aura peur de son mari. Et quand la femme devient introvertie, elle n'a pas confiance en elle et ne compte pas sur elle pour t'apporter son aide à des situations de difficulté. Ce qui fait que Khadija radiallahu anha a eu cette liberté de conseiller le prophète alayhi salatu wassalam et de prendre une décision de le ramener vers Waraqa bin Nawfal, ça prouve que c'était une femme stable. Et dans cette relation de couple, il y avait la confiance, la muhabba, il y avait justement ce respect mutuel. C'est le premier enseignement que nous retenons. Mes chers frères et sœurs, Khadija radiallahu anha, c'est la première femme qui a accepté l'islam. Et ça est tout en l'honneur des femmes que la première personne sur terre qui a dit « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah » c'est une femme. Khadija radiallahu anha va le soutenir pendant toutes les années difficiles à Mecca. Et ça va durer à peu près 10 ans. Les 10 premières années à Mecca, même les 3 années ensuite. Hein. Mais je veux dire qu'elle va mourir en l'an 10 de la prophétie. Ces années-là, ça va être des années d'épreuves, de difficultés. Il n'y a pas un moment de bonheur, il n'y a pas un moment de soulagement dans l'épreuve. Je veux dire, le bonheur de le couple, il y avait. Mais dans la mission prophétique, c'était une période extrêmement difficile. Et on connaît la sirat, qu'est-ce que le prophète alayhi salat a dû subir, comment il a dû voir et supporter la vision de certains jeunes sahaba qui ont dit la ilaha illallah et qui sont morts pour la ilaha illallah. Le sentiment, pas de culpabilité, mais toute la tristesse, le chagrin qui a pu envahir son cœur, également les événements de Taïf et plein de situations difficiles, et à chaque moment, il trouvait le soutien auprès de Khadija radiallahu anha. La maison de Khadija, c'est la première demeure où on va adorer Allah, on va lire le Coran, et le prophète alayhi salatu wassalam dit à propos de Khadija, elle a cru en moi lorsque personne ne me croyait. Elle est entrée dans l'islam lorsque les gens me tournaient le dos. Elle m'a soutenu. Elle m'a réconforté par sa personne, par ses bons conseils, par sa présence auprès de moi. Et elle m'a aidé par ses biens pour la da'wa ilallah. Alors qu'à ce moment-là, personne n'était prêt à m'aider. Et par la grâce d'Allah, j'ai eu tous mes enfants avec elle. Les savants disent que ça, c'est la reconnaissance. Et ça nous fait comprendre que le mari, un homme, et là on se focalise maintenant sur l'époux, quand il voit que sa femme répond présent et qu'elle est là dans la maison, elle fait, mashallah, ce qu'elle a à faire par rapport au foyer, par rapport aux enfants, même par rapport à l'écoute, et ainsi de suite, l'homme se doit de se montrer reconnaissant. Et de le dire des fois, qu'alhamdulillah, ce que tu fais, c'est exceptionnel, tu es une femme de grande valeur. Et ça, c'était le comportement noble de notre prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète a dit à propos de Khadija que Khayru nisa'iha Khadija bin Khuwaylid, qu'elle fait partie des meilleures femmes de l'humanité avec Maryam alayhi salam. Et je termine par un troisième hadith et puis on développera d'autres choses Il y a un hadith d'Abu Huraira radiallahu anha, hadith qui est magnifique, où il est dit que l'ange Jibril est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, et il a dit: « Ô Muhammad, ya Rasulallah, hadihi Khadija, qad atat ila akhir al-hadith, ô prophète d'Allah, ta femme Khadija, elle est à l'extérieur, elle vient dans un instant, elle arrive dans quelques instants, et elle aura avec elle un récipient rempli de nourriture. » Ça, c'est ce qu'Allah, c'est la science de l'invisible qu'Allah met dans le cœur de l'ange pour dire qu'est-ce qui va se passer dans un instant. Quand elle arrive, ce qui veut dire que quand elle va arriver, l'ange Jibril, lui, il va repartir. Quand elle arrive, فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. Quand Khadija va rentrer, dis-lui qu'Allah عز وجل lui fait salam. Subhanallah. Dis à Khadija qu'Allah lui fait salam et transmet-lui également mes salams à moi de l'ange Jibril, et annonce à Khadija qu'Allah a déjà préparé une maison pour elle dans le Jannah. Parce que c'était une femme pieuse, c'était une femme noble, et c'était celle qui a soutenu le prophète alayhi salat wa salam dans la plus grande mission de l'histoire de l'humanité, la da'wah pour l'ensemble de la Ummah jusqu'au Qiyamah. Elle a été présente auprès de son mari alayhi salat wa salam. C'est par la grâce d'Allah, ensuite par son soutien, que le prophète alayhi salat wa salam a trouvé cette force pour faire la da'wah et pour prêcher l'islam. Et Khadija va rester solidaire avec son mari alayhi salat wa salam lors d'un événement extrêmement douloureux. On appelle ça, c'est traduit en français par le boycott des Banu Hashim. Je ne rentre pas dans les détails, c'est une histoire que vous retrouvez dans Rahiq al-Maktoum et dans tous les livres de Sirat. À un moment donné, il y a un embargo sur toute la famille du prophète alayhi salat wa salam, et donc ils ont dû quitter Mecca et rester dans une vallée qui appartenait à Abu Talib pendant combien de temps? 3 ans. 3 ans où ils n'avaient pas le droit de mettre les pieds à Mecca. 3 ans où ils n'avaient pas le droit d'envoyer quelqu'un à Mecca acheter du blé, de la farine pour cuire le pain. Voilà, shay inqita'a. Un embargo total. Et on connaît l'histoire, certains prophètes étaient obligés de manger des feuilles d'arbres pour tenir, pour ne pas mourir de faim. Je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais il faut quand même qu'on transmette, ça c'est important. Les savants, les mu'arikhin, les spécialistes de la sirah disent que Khadija ne faisait pas partie des Banu Hashim. Elle n'était pas concernée par cet embargo. L'embargo concerne une famille, une tribu. Vous savez que les Arabes fonctionnaient en tribu. Elle n'était pas concernée. Ça veut dire que si elle voulait rester à Mecca, elle avait le droit de rester à Mecca et vivre normalement. Mais Khadija radiallahu anha était solidaire de son mari. Elle a voulu rester auprès de son mari alayhi salatu wassalam, et par l'influence qu'elle avait, c'était une grande commerçante, j'ai oublié de le dire, elle avait des contacts, et elle, pendant ces 3 années, elle a fait de son mieux pour faire jouer ses contacts, si je peux utiliser cette expression, et faire ramener de la nourriture dans cette vallée pour que les musulmans ne meurent pas de faim. Mais elle-même, elle a beaucoup souffert de ces 3 années de disette et de famine, d'absence totale de confort. Et justement, c'est ce que je voulais dire, les mouarikhin disent que c'est une des raisons pour lesquelles elle est tombée malade, ça a atteint sa santé, et quelques temps après cet embargo, radiallahu anha, elle est décédée. Hada. Et quand Khadija radiallahu anha quitte ce monde, le prophète alayhi salat wa salam, bien sûr, il est pris d'une tristesse terrible. Et on va appeler cette année-là l'année de la tristesse, Amul Huzn. Et c'était justement pendant le mois de Ramadan. C'était la nuit du 10e Ramadan. Et je me demande si on n'est pas le 10e Ramadan aujourd'hui. On va dire que c'était, subhanallah, on remonte, c'était exactement cette période où Khadija radiallahu anha avait quitté ce dunya. Et vous savez, ce qui peut paraître, je pèse mes mots, hein, je fais attention à ce que je dis, ce qui peut paraître un petit peu terrible, hein, et je garde ce mot terrible, pas plus que ça, c'est que Khadija radiallahu anha, pendant 10 ans, depuis Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, elle était là auprès de son mari, l'a soutenue dans toutes ces situations difficiles. Mais elle ne va jamais voir Madina. Elle va jamais voir le résultat de ce travail. C'est quand même poignant, ça, non? C'est quand même quelque chose qui nous prend, qui nous resserre le cœur qu'elle a tellement donné. Et au moment où le prophète والسلام, reçoit l'aide d'Allah, il est à Madina, il est bien accueilli. Et il y a toutes ces facilités. Khadija, elle n'est pas présente pour voir cette grande nusra d'Allah. Les savants en sirah des Mouarikhines disent que notre prophète والسلام, a accepté cette situation de la part d'Allah. Et ça, c'est la grande qualité que nous devons retenir, entre autres, de notre prophète alayhi salatu wassalam. C'est la qualité que le croyant doit montrer dans toutes les situations d'épreuve où c'est vraiment ça te touche au plus profond de ton cœur. C'est ce qu'on appelle al-istislam ou lillahi azza wa jalla. Ça fait partie des amal al-qulub, des actions intérieures. La soumission totale à Allah. Et quand on dit soumission à Allah, tristement, je pense que soumission, c'est je fais mes rakats de tarawih, je fais mon jeûne, c'est Dieu, mais je me soumets à l'ordre d'Allah. Oui, ça c'est tu te soumets au ahkam illah. Mais l'istislam, on appelle ça l'iqadha illahi al-mu'lima. C'est également se soumettre aux décisions d'Allah qui sont parfois difficiles. Que Khadija radhiallahu anha n'a pas eu le bonheur de voir son mari sourire et enfin heureux à Madina radhiallahu anha. Et ça, le prophète alayhi salatu wassalam, il a accepté. Il a accepté. Parce qu'il a accepté toutes les décisions d'Allah Azza wa Jal. Il a accepté le décès de Khadija, le décès avant lui, avant elle, de son oncle Abu Talib. Et il accepte qu'Allah Azza wa Jal prédestine une situation aussi difficile. Lorsqu'elle meurt, le prophète alayhi salat wa salam va l'enterrer, va creuser sa tombe lui-même et va l'enterrer de ses propres mains au Ma'la qui est à Makkatul Mukarrama. Et comme on a dit, cette année sera appelée Aamul Huzn. Entre autres, les savants disent que si notre prophète alayhi salat wa salam a pu supporter, il a accepté ces 10 années de difficultés qui vont se terminer par une année de tristesse et ensuite encore d'autres années difficiles, les 3 autres années à Mecca, si nous, de notre vie, on a quelques épreuves, quelques difficultés, il ne faut surtout pas se plaindre. Il ne faut pas aller parler à tout le monde de nos problèmes, dire oui, il m'arrive ça, hein, c'est pas juste, ainsi de suite. On appelle ça « at-tahammul ». On peut traduire par « il faut prendre sur soi ». Être capable de... C'est pas, on ne parle pas, comme on dit en français, avoir les épaules solides, avoir la force mentale, psychologique. Non, ce n'est pas de la force psychologique, c'est de la force spirituelle. Parce que, justement, la force spirituelle va alimenter la force psychologique. Et cette force spirituelle, elle vient d'une croyance qui est profonde et parfaite en « qadha illahi wa qadari » en le destin, en ce qu'Allah a prédestiné. Si tu es convaincu, tu as cette yakin que tout ce qui vient d'Allah, il y a un khair, ça te renforce. Et psychologiquement, tu es plus fort. Et tu peux avancer dans toutes les situations, d'épreuve. Et même après son décès, parce que je sais, c'était en train de se dire, mais on devait parler de l'amour, elle est en train de parler de la vie de Khadija. Attention, c'est là qu'on vient au lubbul mawdou, hein, ce qui nous intéresse. C'est que l'amour que le prophète alayhi salatu wassalam avait pour Khadija radiallahu anha, cet amour ne s'est pas, il ne l'a pas enterré en même temps que Khadija. Cet amour est resté jusqu'au dernier jour de sa vie. Et combien de temps il est resté à Madina, hein, le jeune homme qui a lu? Combien de temps? C'est toi qui as gagné le concours? C'est ton frère, Inch'Allah. Combien de temps il est resté à Madina? J'entends pas. Ah! 13 ans. Récemment, pour revoir Sirat. 13 ans à Madina Munawwara. Jusqu'aux derniers instants de sa vie, le prophète alayhi salatu wassalam pensait à Khadija radiallahu anha alors qu'il n'était pas veuf. Allah lui a accordé Aïcha et d'autres épouses pour des sagesses, pour une sagesse qu'Allah seul le sait et pour des choses qu'on comprend bien, le lien avec les tribus, il fallait. C'était l'habitude des Arabes. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas vécu seul. Il était entouré de différentes épouses, différents caractères, de différentes tribus, différentes personnalités. Mais notre prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais oublié Khadija et n'a jamais cessé de citer la grande sagesse et l'amour qu'il avait pour Khadija radiallahu anha. Et Aïcha radiallahu anha, en fait c'est Aïcha qui s'exprimait le plus. Aïcha radiallahu anha, elle disait « Ma rirtu ala ahadin min nisa'in nabiyya alayhi salatu wassalam, ma rirtu ala Khadija. » Ma rirtu, ça vient d'un mot qu'on connaît, qui s'appelle la rira. La rira, c'est l'amour propre. certains traduisent par la jalousie, mais c'est plutôt de l'amour propre. Aïcha dit, je n'ai jamais, après si on veut utiliser le mot jalousie, au moins c'est plus facile à comprendre. Je n'ai jamais été jalouse d'une femme comme j'ai été jalouse de Khadija, alors que je ne l'avais, complété, je ne l'avais jamais vue. Mais ils ne se sont pas croisés. Khadija radhiyallahu anha est mort à Mecca en l'an 10 de la révélation. Aïcha radhiyallahu anha, elle est à Médina. Elle dit, je n'ai jamais vu, jamais croisé, mais j'étais jalouse d'elle. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, kana yukthiru dhikra, il n'arrêtait pas de parler de Khadija radhiyallahu anha. Et elle dit, ka'annahu, hadith de Bukhari, ka'annahu lam yakun fi dunya imra'atan illa Khadija. Comme si que de ce dunya, il n'y avait pas d'autre femme que Khadija. Quand le prophète parle de Khadija, c'est comme si c'est la seule femme qu'il avait toujours aimée. Et il disait, innaha kanat, wa kanat, wa kanat. Dans le sens qu'elle était comme ça, elle avait telle qualité, elle était généreuse, elle avait une grandeur d'âme, elle était remplie d'amour, de compassion. Tellement le prophète, alayhi salat wa salam, aimait son épouse, il avait de l'amour pour Khadija, radiallahu anha. Est-ce qu'on imaginait un peu ça? Le prophète, alayhi salam, comment il était amoureux de son épouse, radiallahu anha. Aïcha dit également que quand le prophète citait Khadija, je reprends, enfin, c'est différentes versions, donc je ne vais pas répéter les mêmes termes, lam yakad yamal min athana, il faisait tellement d'éloges, ou al-istighfar alaha, il faisait tellement de istighfar également pour elle, jusqu'à un moment donné, je n'en pouvais plus. J'ai dit au prophète d'Allah, laqad awwadaka Allahu min kabirati sin. Au prophète d'Allah, Allah t'a pas donné d'autres femmes plutôt que cette vieille dame, astaghfirullah, cette femme âgée, elle était vieille, si je ne me trompe pas, elle avait 65 ans à son décès, radiallahu anha. Allah t'a donné d'autres épouses beaucoup plus jeunes et tu n'arrêtes pas de parler de cette vieille femme de Quraysh que tu as tellement aimée. Et là, le prophète était très touché. Quand Aïcha dit que Allah t'a accordé khayram minha, le prophète a dit ma abdanani Allahu azza wa jal khayram minha, ce qu'Allah m'a accordé alhamdulillah, mais mieux qu'elle c'était pas, il y avait pas mieux qu'elle. Et c'est là qu'elle a dit, je vais pas répéter les mêmes choses, c'est la citation de tout à l'heure, elle a cru en moi quand personne ne voulait me croire, elle m'a accepté, elle m'a aidé, elle m'a soutenu dans les moments les plus difficiles, hadith de Bukhari et de Muslim. Après le décès de Khadija, radiallahu anha, on est toujours en train de parler de l'attachement que le prophète avait pour son épouse. Quand le prophète, alayhi salat wa salam, coupait un animal, il donnait la sadaqa, il sacrifiait un animal pour donner à manger aux gens, il gardait toujours une part de viande pour les proches de Khadija, radiallahu anha. Il coupait lui-même la viande en morceaux et il donnait à des personnes pour les distribuer. Il dit que « idhabu bihi ila fulana » فَإِنَّهَا كَانَتْ صَدِيقَتْ خَدِيجَةَ. Allez donner à telle et telle personne parce qu'elle c'était l'amie de Khadija à Mecca. Ça date de, Allah seul sait combien d'années, avant 5 ans, 6 ans, 7 ans, il a toujours fait, il a toujours respecté cette action-là. Khadija radiallahu anha avait une sœur qui s'appelait Hala. Hala bint Khuwaylid. Et Hala avait la même voix Khadija radhiyallahu anha. Et quand Hala venait rendre visite au prophète alayhi salat wa salam à Medina, il y avait ce qu'on appelle le isti'zan. Quand on va voir quelqu'un, on demande, soit on cogne, soit on s'annonce, on dit, est-ce que je peux rentrer? Et quand le prophète alayhi salat wa salam de sa maison, elle entendait la voix de Hala, il se redressait immédiatement et dit, Allahumma, Allah envoyait Hala, parce que sa voix le rappelait, la voix de son épouse, sa tendre épouse Khadija, radiallahu anha. Le prophète, alayhi salat wa salam, aimait même recevoir les gens qu'il avait côtoyés à Mecca à l'époque de Khadija, radiallahu anha. Il y avait une vieille femme, une femme noire, très âgée. Et des fois, à Mecca, elle allait voir Khadija et elle peignait ses cheveux. On appelle ça une marchita. Elle allait peigner, elle prenait soin de Khadija radiallahu anha, qui était une femme noble à Mecca. Et donc elle a fait la hijra, elle était à Médina, elle était très vieille. Et Aïcha ne la connaissait pas. Et une fois, elle demande l'autorisation pour avoir le prophète alayhi salat wa salam. Là, on est à Médina, c'est-à-dire le prophète a une certaine autorité, il reçoit des chefs de tribu, et les gens filtrent les entrées, vous comprenez? C'est quelqu'un, le prophète est devenu un chef. C'est une personne, un personnage éminent, respecté dans toute la péninsule arabe, et pour aller le rencontrer, il faut l'autorisation. Et Aïcha voit une vieille femme noire qui sort de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand je dis noire, c'est pas raciste, c'est pas péjoratif, hein. Je traduis le hadith, hein. Et donc, elle, on m'a compris bien sûr. Et Aïcha, il dit au prophète d'Allah, cette femme, c'était qui ça? Et pourquoi tu la reçois avec autant d'honneur? Parce qu'elle avait entendu une partie de la conversation. Quand elle est entrée, le prophète a dit, man anti? Et elle a dit que Ana Juthama al-Muzaniya. Je m'appelle Juthama de la tribu des Muzani. Et le prophète s'est rappelé que c'est elle qui venait peigner les cheveux de Khadija. Elle dit, kayfa antum, kayfa halukum, kayfa kuntum ba'dana? Comment ça va? Comment va ta famille? Et après nous, est-ce que ça, comment ça s'est passé? Et ainsi de suite. Et Aïcha ne comprenait pas pourquoi il donnait autant d'importance à cette vieille femme. Et elle dit qu'elle venait s'occuper de Khadija de son vivant à Makkatul Mukarrama. Si Ismaïl, notre cher Ismaïl, s'il savait à quel point Nabiullah alayhi salatu wassalam aimait son épouse, et comment ce lien était profond et puissant et fusionnel, je vous promets, je ne dis pas qu'il aurait passé moins de temps à la masjid, je ne dis pas ça, ce n'est pas ce que je voulais dire dans mon exemple, mais il aurait équilibré sa vie entre son travail, l'investissement professionnel, le temps qu'il passe à la masjid, le temps qu'il passe à bavarder avec ses camarades à l'extérieur, le temps qu'il leur donne dans les tournois de football ou ainsi de suite. Il aurait donné beaucoup plus de temps à celle qui le mérite réellement, c'est-à-dire la femme qui fait tourner la maison, qui s'occupe de son foyer et qui élève ses enfants. C'était ça le comportement de notre prophète alayhi salat wa salam. Et Khadija, jusqu'à son décès, elle a toujours été heureuse et épanouie avec son mari. Ça veut dire que son mari lui donnait son droit, elle le respectait. C'est ce que Ismaïl aurait dû retenir, c'est ce passage de la sirah qu'il aurait dû lire. Et s'il l'avait fait, qaddar Allah, son couple aurait tenu, il aurait eu certainement un comportement différent avec son épouse. Je termine par une dernière histoire, une dernière anecdote. Zainab était une des filles du prophète alayhi salat wa sallam. Zainab a eu un destin difficile, une grande épreuve de la part d'Allah. Elle était mariée à un homme qui s'appelait Abu al-As ibn al-Rabi'. Et Abu al-As ne s'était pas converti à l'islam. Il était resté habité à Mecca. Et donc, il avait gardé Zainab auprès de lui à Makkah. Situation difficile. Et le prophète sallam respectait la relation de couple. Il n'a pas interféré. Après la bataille de Badr, justement, Abu al-As faisait partie des prisonniers. Dans toute guerre, il y a des prisonniers. Et là, il y a eu la demande de rançon pour que les gens de Makkah récupèrent les membres de leur famille. Et Zainab, je rappelle, qui était Zainab? La fille du prophète alayhi salat wa salam, Zainab a envoyé une somme d'argent comme caution, on va dire, pour libérer son mari. Et elle a envoyé également, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'argent, de dinar, elle a envoyé également un collier, Qilada. Et le collier appartenait à qui d'après vous? À Khadija radiallahu anha. Quand le prophète alayhi salat wa salam a vu un peu tout ce que les gens envoyaient, il a vu le collier, le hadith stipule, hein? Faraqqa laha, son cœur s'est immédiatement attendri, ça l'a touché. Ça l'a touché, et on a le commentaire de Al-Harawi, rahimahullah, qui explique que ça l'a touché parce que elle s'est rappelée comment est-ce que sa fille était dans la difficulté à Makkah, mais surtout, je lis, « وَتَذْكُرُ عَهْدَ خَدِيجَ وَصُحْبَتِهَا فَإِنَّ الْقِلَادَ كَانَتْ لَهَا وَفِي عُنُقِهَا » Elle s'est rappelée que Khadija avait l'habitude de porter ce collier. Et là donc, il y a eu comme on dit un flash. Là on est à Badr. Il s'est rappelé de Khadija qui portait ce collier et il a demandé l'autorisation de Sahaba de libérer Abu al-As et de renvoyer le collier à Zainab radiallahu anha. Il a dit à Zainab, فَقَالَ لِزَيْنَبْ لَا تَفْرَطِي فِي عَقْدِ خَدِيجَ. Prends soin du collier de ta mère radiallahu anha. Mes chers frères, travaillez juste cette anecdote. Je pense qu'il n'y a pas besoin de conclure, d'expliquer. Je pense que tout est très clair. Notre prophète alayhi salatu wassalam aimait son épouse. Et c'est exactement ce que nous devons retenir, l'amour que nous devons donner au sein du couple. Et c'est dans les deux sens. Khadija radiallahu anha aimait son mari. Et la relation était fusionnelle. Donc c'est vraiment un point que nous devons retenir. Notre musalla, notre ibadah, notre hifz du Coran, nos amal, oui. Mais la relation du couple, ikhwani, akhawati fillah, ça c'est la base, ça c'est le ciment de la société. Parce qu'un couple qui reste uni, ça fait des enfants qui vont grandir avec une stabilité. Et on pourra donner la tarbiya islamia. Lorsque les enfants sont séparés, les enfants sont fracturés. Psychologiquement, ils sont ébranlés et c'est difficile qu'ils restent fermes et qu'ils soient stables de leur vie. Si on veut une umma qui est soudée, qui est unie, on doit être capable de passer les différentes épreuves de la vie. Les problèmes, il y en aura toujours. Les incompréhensions, il y en aura. Les motifs de conflit, il y en aura. C'est normal parce que nous venons de familles différentes, des adats, des habitudes différentes, modes de vie différents. Vous savez, les habitudes qu'on a eues dans notre éducation, ça reste de le sang. Certains, parfois ça change, parfois non. Mais être capable de faire des concessions et ne jamais oublier que le prophète alayhi salat wa sallam était notre uswatun hasana. C'est pas uniquement quand je viens de la masjid avec ma grande barbe, avec mon kafni qui est impeccable, avec mon oud, avec tout ce que j'ai, avec mon Coran dans mon cœur, avec mes titres de hafid al Coran, de qari, de alim même, pourquoi pas. C'est pas uniquement là que je me dis que je suis, je viens suivre le prophète alayhi salat wa sallam, uswatun hasana. C'est bien là, oui. Mais c'est également quand tu rentres chez toi, quand tu rencontres ta femme et quand tu es auprès de tes enfants, c'est là aussi que notre prophète alayhi salat wa sallam est uswatun hasana. Je demande l'autorisation au Kalisab de 5 minutes encore, c'est possible. Là, on a vu la relation couple. Le prophète, alayhi salatu wassalam, allez, je choisis parce que, allez, on va parler de Fatima, radiallahu anha, sa fille. Aïcha dit, ma ra'aytu ahadan, on va dire en français pour aller plus vite, je n'ai jamais vu quelqu'un qui ressemblait autant et qui avait la même façon de se comporter, de parler. Je reprends. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui parlait exactement comme le prophète que Fatima radiallahu anha. Elle avait le même comportement, la même démarche, les mêmes habitudes que son père, alayhi salatu wassalam. Et c'est là le shahid. À chaque fois que Fatima, et là je demande à tout le monde d'ouvrir grand ses oreilles, à chaque fois que Fatima allait rendre visite à son père, alayhi salatu wassalam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait. Il se mettait debout et il allait embrasser sa fille, radiallahu anha. Ça, il faut retenir. L'amour d'un père pour son fils, pour sa fille, pour ses enfants, de façon générale. Il est également, c'est le hadith d'un muslim, je ne cite pas tous les sources, mais soyez tranquilles, tous les sources sont authentifiées, bi'idhnillahi azza wa jal, et qu'Allah pardonne nos manquements. On continue dans les livres de Sirat, que lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, devait voyager, quitter Madina pour aller ailleurs, je lis, لم يكن يخرج من المدينة مسافرا حتى يرى فاطمة. Il ne quittait pas Madina sans aller voir sa fille Fatima l'embrasser. Et quand il revenait à Madina, la première chose qu'il faisait, c'était quoi? Il venait à la masjid, il faisait deux rakats, tahiyatul masjid, et il allait voir qui en premier? Sa fille Fatima radiallahu anha. C'est important de le souligner parce que je me remets en question. Nous remettons tous en question. Quelle est la nature de mes relations avec mes enfants? Et en plus, ça nous donne cette leçon, et c'est une leçon pour tous les Arabes. Parce que si on remonte la pendule quelques années avant, les Arabes n'aimaient pas les filles. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى حَفِسَبْ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ وَهُوَ كَظِيمٌ. Le sens du verset, quand un homme, et on a porté la nouvelle que sa femme accouchait, c'était une fille, il devenait furieux, il était en colère. Parce que dans le jahiliya, à l'époque de l'ignorance, une fille c'était un déshonneur, na'oud billah. Le prophète alayhi salat wa salam donne une leçon au Quraysh, au Aws, au Khazraj, à Mudar, à toutes les tribus arabes et à l'humanité, que la fille c'est un grand honneur pour un homme, et il montrait comment il aimait Fatima radiallahu anha. On connaît également l'histoire de Fatima qui avait envoyé une personne voir le prophète sallam pour dire que voilà, elle a beaucoup de difficultés à la maison, s'il y a quelqu'un qui pouvait venir l'aider. Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a donné à Fatima? Là, on aurait pu dire que le père protecteur, c'est celui qui donne. J'aime, je donne. Attention. Attention. Je ne veux pas non plus qu'on ressorte de cette assemblée, on se dit que voilà, donc aimer ses enfants, ben voilà, je vais donner. Donc dès qu'on sort, je vais donner à mon fils une PlayStation 5, je vais donner à ma fille quand le petit truc là, j'ai oublié comment ça s'appelle. Bref, je vais les combler de cadeaux. Non, on appelle ça un amour platonien. C'est pas donner. Je vois ça, me donner en priorité, c'était du dîn, de la spiritualité. Fatima, elle manifeste son besoin d'avoir quelqu'un qui l'aide dans les tâches du quotidien. Le prophète alayhi salat wa salam va lui donner autre chose. Je vais te donner quelque chose qui est beaucoup mieux. Vous connaissez le hadith? Je vais t'enseigner quelque chose. Subhanallah 33, Alhamdulillah, Allahu Akbar, que tu lis avant de dormir, Allah va te donner la force, et la force mentale et psychologique, mais également la force physique et l'apaisement du cœur. Les savants disent, ce qu'un père doit donner avant tout, c'est de la transmission de din, de iman billah. Ensuite, il donne également de l'amour paternel. Je continue, je suis en train de tricher sur l'heure, d'accord, mais je l'assume. 5 minutes, inshallah. Ruqayya, on parle d'une autre fille, Ruqayya radiallahu anha. Et c'est là où on a besoin de revoir un peu le juste milieu de nos prises de décision. Après, je dis, si quelqu'un vraiment, vous êtes fatigué, je ne serai pas vexé au moment, le moindre du monde, si quelqu'un se lève. Vraiment, je vous mets à l'aise, c'est juste que je veux terminer un passage. Ruqayya radiallahu anha, on est à Madina. Ruqayya radiallahu anha, une des filles du Prophète sallam, elle est mariée à Uthman ibn Affan radiallahu anhu. On est en l'an 2 de l'Hégire, c'est la bataille de Badr. Et Ruqayya est très malade. Le prophète alayhi salat wa salam va voir Uthman. Et pourtant, vous connaissez la place de Uthman. Parmi les premières personnes à accepter l'islam. Un homme qui comptait énormément. Il va devenir troisième calife. C'est quelqu'un qui a porté beaucoup au prophète alayhi salat wa salam. Par ses biens, mais par sa simple présence. Les enfants, écoutez mon conseil, ils s'en vont. Uthman ibn Affan, il va voir le prophète salam. Il dit que Ruqayya est malade. Voyez toute la bonté, la gentillesse d'un père, l'amour, la tendresse, complétée avec les adjectifs que vous voulez, d'un père pour sa fille. Il dit, oh Uthman, si Ruqayya est malade, reste à Makkah, reste à Madina. Ne viens pas sur le champ de bataille à Badr. Alors que c'était une situation terrible. Si les musulmans avaient perdu à Badr, ça aurait été la fin de l'islam. Allah a envoyé les anges, je connais l'histoire de Badr. Les savants, il y a tellement de leçons, je ne peux pas me permettre de tous les citer. Les savants disent, l'amour, retenez, l'amour d'un père pour sa fille. Qui fait que le prophète retient Uthman, alors que Badr, ça fait partie des grands événements de l'histoire. D'accord ? Le prophète préfère que Uthman reste auprès de son épouse. Même chose de la relation d'un homme pour sa maman. Il y avait une histoire similaire, si je retrouve mes notes. Abu Umama ibn Tha'laba. Radiallahu anha, qui va voir le prophète dire au prophète d'Allah, je veux venir avec toi à Badr, mais ma maman est mourante. Elle est mourante, elle est souffrante. Le prophète m'a dit que si ta maman, elle est de ce monde, reste avec elle. Alors que Badr, on connaît, je dis déjà l'importance, le prophète voulait qu'un fils reste au chevet de sa maman parce que cette dame n'avait personne d'autre pour être à son rythme. Tout ça, ça nous donne un autre aperçu, une compréhension beaucoup plus profonde, beaucoup plus globale, de l'amour du prophète alayhi salat wa salam pour sa femme, pour ses enfants, et l'amour universel que le prophète alayhi salat wa salam a transmis. Je conclue, l'amour qu'il avait, et je suis passé à côté de certains événements pour terminer un peu avant 14h30, l'amour que le prophète alayhi salat wa salam avait pour sa maman Amina. Le prophète alayhi salat wa salam était une fois en voyage avec ses compagnons entre Makkah et Madina, et il est passé dans un endroit qui s'appelait, comment s'appelait l'endroit où est mort Amina? Al-Abwa. Quand vous faites la route, en train, vous ne verrez jamais, ça va trop vite. En bus ou en taxi, c'est marqué Abwa. C'est marqué Abwa. Le prophète s'est arrêté avec les sahabas à cet endroit et il s'est arrêté près de la tombe de sa maman. Je lis le hadith. Zara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam qabra ummihi fabaka wa abka man hawlahu. Et dans une version, fabaka wa abka an-nas. Et le prophète m'a expliqué au sahaba, dit « Istadhantu Rabbi fi ziyarati » Je dis en français, j'ai demandé l'autorisation à Allah de rendre visite à la tombe, sur la tombe de ma maman. Fa adhinali, Allah m'a donné l'autorisation de le faire. « Wastadhantuhu fil istighfari laha falam ya'dhanli » Et je demandais l'autorisation à Allah de demander istighfar pour ma maman. Le prophète me dit « Allah ne m'a pas donné l'autorisation. » Donc le prophète était profondément attaché. Il aimait sa maman Amina, qui pourtant il n'a pas connu pendant longtemps. Dans d'autres hadiths, il dit Falam yura bakiyan akthar min yawmi idhin. On n'a jamais vu le prophète alayhi salat wa salam pleurer autant que le jour où il était sur la tombe de sa maman. Une fois, il était avec des sahaba et quelqu'un vient voir le prophète et dit au prophète d'Allah, ta fille t'appelle. Et j'ai fait des recherches, il me semble que c'était Zainab. Il dit au prophète d'Allah, viens, mon fils est en train de mourir. Le fils de Zainab. Le prophète alayhi salat wa salam transmet ses encouragements et la formule qui est très connue que lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, les formules qu'on connaît. Et puis Zainab demande au prophète de venir et le prophète va voir sa fille radhiyallahu anha qui lui tend son enfant. Le bébé était mourant. Le prophète l'a pris dans ses mains et l'enfant suffoquait, il était en train de perd la respiration. Il était dans ses derniers instants, il agonisait. Et le prophète alayhi salatu wa sallam s'est mis à pleurer. Un sahaba dit au prophète d'Allah, pourquoi tu pleures? En pensant que si on pleure, c'est que on n'est pas content que de ce qu'il a dit. Non, non, ça c'est autre chose. Ça c'est la rahma, l'amour qu'Allah met dans le cœur des gens. Et sachez que innama yarhamu Allahu min ibadihi ar-rahama. Si vous voulez qu'Allah ait pitié de vous, c'est-à-dire le jour de Qiyama, ayez pitié pour les gens. Il faut que ce cœur soit rempli d'amour, de compassion pour les créatures d'Allah Azza wa Jalla. On a essayé de citer donc quelques récits pour qu'on comprenne comment le prophète aimait sa femme, aimait ses filles, aimait sa maman, aimait ses proches de façon générale. Qu'Allah Rabbul Izzah nous permet de comprendre, on va dire, l'essentiel de ces informations, qu'on comprenne que l'islam est la religion de l'amour par excellence. L'amour total pour Allah, ensuite l'amour pour ses parents, pour sa femme et pour une femme, pour son mari, l'amour pour ses enfants, pour l'ensemble de sa famille proche, famille éloignée, pour la Ummah et pour les créatures d'Allah Azza wa Jalla. D'ailleurs, quand on prie les deux noms d'Allah qu'on cite le plus, c'est Ar-Rahman et Ar-Rahim, les noms qui montrent la clémence, la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Ce que nous devons retenir, deuxième point, l'équilibre essentiel entre le droit d'Allah, le droit de la famille et son propre droit. C'est ce que Salman Al-Farisi radiallahu anhu avait dit à Abu Darda quand il avait vu à Madina qu'Abu Darda ne s'occupait pas de sa femme. Il n'y avait pas de relation entre eux. Il a dit que inna li rabbika alayka haqqan, n'oublie jamais que Allah a un droit sur toi. Wa inna li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan, ta famille, ta femme a un droit sur toi. Toi-même tu as ton propre droit. Veille à donner à chacun son droit correctement de façon équitable. Hadith de Bukhari. Troisième enseignement, vous le comprenez, aimez vos proches parce que ça fait partie de la sunna. Jamais on ne va atteindre le kamal ou l'iman, la foi complète, le haut degré de iman, tant qu'on n'aime pas sa femme et on n'aime pas ses enfants et qu'on ne leur inculque pas le bien. On conclut par ce hadith qu'on dit « Khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli » Les meilleurs parmi vous, ce sont ceux qui agissent le mieux avec leurs proches, avec femmes et enfants. Et moi, prophète d'Allah, je suis votre modèle. Je suis celui qui agit le mieux avec ma femme et mes enfants. Ce que nous devons retenir, c'est qu'il est essentiel de lire, de s'informer, d'apprendre. Il n'y a pas d'âge pour rouvrir des kitabs ou de s'asseoir dans des majlis avec nos savants. Apprendre la sira pour connaître réellement la noblesse de caractère de notre prophète alayhi salatu wassalam. Et pour les femmes, l'enseignement, c'est s'inspirer de Khadija radiallahu anha, qui avait cet amour pour son mari, mais également cette présence, cette force psychologique où elle était capable d'écouter son mari et de lui donner les bons conseils. Et si je peux juste par respect terminer par Aïcha radiallahu anha, elle aimait, elle parlait, elle racontait beaucoup de choses. Et le prophète alayhi salat wa sallam était extrêmement patient. Une fois dans Adabul Mufrad de Bukhari, il est dit qu'Aïcha a commencé à raconter une longue histoire interminable au prophète alayhi salat wa sallam. Il n'a pas bougé, il n'a pas fait une remarque. Jusqu'à quand ça se termine quand? Il écoutait avec patience et compassion. Le temps consacré, le temps mutuel que l'homme donne à sa femme et que la femme donne à son mari, c'est quelque chose qui est primordial et ça fait partie de la sunna. Et dernier point, aimez vos enfants. Et quand on dit aimez vos enfants, donnez-leur de l'amour. Arrêtez de crier avec les enfants. C'est plus à cette génération que je dis. Mais si nos parents ont crié avec nous, si nos grands-parents, si nous on a été éduqués à la dure avec parfois des coups de savate et des réprimandes, ainsi de suite, c'est peut-être pas la bonne façon d'agir. Car le prophète n'a jamais frappé quiconque. Donnez de l'amour et il y aura forcément un retour. Qu'Allah Rabbul Izzah protège notre iman, protège nos familles, donne de la stabilité au couple et à l'ensemble de la famille. Ma tawfiq illa billah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdi, kana ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Qu'Allah Rabbul Izzah illumine nos cœurs, nous donne la possibilité de profiter de ce mois de Ramadan, de cette première décade. Qu'Allah accepte et valide nos a'mal, nos efforts. Qu'Allah nous donne la concentration, la dévotion dans nos salat tarawih. Qu'Allah nous permet de trouver vraiment la présence de cœur quand on écoute les imams lire, de trouver l'amour pour la lecture du Coran. Qu'Allah nous permet de nous réveiller tous les matins, le tahajjud, le qiyamul layl, et de le faire avec présence de cœur. Qu'Allah nous permet de faire doua avec présence de cœur, avec conviction. Qu'Allah nous entend. Qu'Allah nous permet de demander istighfar régulièrement, mais là aussi avec les conditions du tawbatun nasuha, penser à nos péchés et vraiment regretter et demander à Allah un repentir sincère. Et qu'Allah nous accorde le istiqam à la fermeté de le din après ce mois de Ramadan. Jazakumullah khair.